Au cri poussé par le camelot dans l'escalier, toute la maison s'était levée, et la chambre de la vieille fut bientôt envahie par une foule de curieux. Les uns vêtus à la hâte de n'importe quoi, les autres en chemise, tous si pittoresquement désordonnés que, malgré mon hébétude, je ne pus m'empêcher de remarquer leur comique silhouette et d'en jouir. Ce ne fut qu'un moment, comme d'un spectacle très divertissant. Même après tant d'années, je revois la plupart de ces têtes, lâches, peureuses et cruelles, et se met encore une gaieté. Ils arrivaient successivement dans la chambre, chacun avec un petit bougeoir à la main, tendaient le col, demandaient « Qu'est-ce qu'il y a ?» À toutes les interrogations, le camelot répondait « Eh, vous le voyez bien, il y a qu'il l'a tué !»« Oh, mon Dieu !» Il me désignait d'un doigt formellement accusateur à l'indignation de tous. Et pour qu'il ne restât plus un doute dans l'esprit de personne, il expliquait avec des gestes rapides « Je l'ai surpris au moment où il achevait de la tuer. Elle était renversée comme ça sur le plancher. Lui, couché sur elle. Comme ça, il la tenait à la gorge. » Il y avait, ça et là, des exclamations d'horreur. Et, peut-être, des protestations, des doutes. « Mais regardez-le !» s'acharnait le camelot. « Regardez sa chemise, ses mains, son visage. Ils sont pleins de sang. »« C'est vrai, c'est vrai. » Une femme dit « C'est presque un enfant. » Une autre dit « Il n'a pas de barbe encore. » Une troisième dit simplement avec de l'admiration « Ainsi, voyez-vous ça ?» Comme je l'ai raconté plus haut, épuisé par mes efforts à le soulever, à le traîner, je m'étais laissé tomber près du cadavre. Et je considérais tout ce monde, je considérais le camelot, sans comprendre qu'il m'accusait du meurtre de la vieille aux tapisseries. Je n'avais plus aucune idée dans la tête. Ma tête était vide. Et tout cela qui se passait autour de moi était si étrangement nouveau, si incohérent, qu'il ne m'était pas possible d'admettre que je ne rêvasse point. Le camelot, actif et terrible, vint à moi, m'obligea à me lever, et m'empoignant l'épaule d'un geste rude, « Comment l'as-tu tué? Pourquoi l'as-tu tué ?» Comme je restais muet, « Allons, réponds !» insista-t-il. Machinalement, je répondis, « Je ne sais pas. » Triomphalement, le camelot se tourna vers les curieux et, les prenant à témoin de mes paroles, « Vous voyez, dit-il, vous entendez ?» Je vis des poings se tendre, menaçant, vers moi. Une femme, enveloppée d'un châle rouge et qui tenait une petite lampe à pétrole dans sa main, proposa net qu'on me mît à mort. Le camelot s'interposa. « Non, il ne faut pas y toucher. Il faut qu'il meure sur l'échafaud. Attendons le commissaire de police. » Combien de temps cette scène dura-t-elle? Je n'en sais rien. Il arriva que je n'entendis plus rien. J'avais comme un immense besoin de dormir. Et lorsque le commissaire de police entra, suivi de plusieurs agents, mon esprit était bien loin de l'hôtel, du camelot, du cadavre. « Comment vous appelez-vous ? » me demanda le commissaire. « Je ne sais pas, » répondis-je. « Vous ne voulez pas dire comment vous vous appelez ? » ?»« Je ne sais pas. » Le commissaire grogna. « C'est bien. » Puis il me laissa sous la garde des agents. Il examina le cadavre, inspecta la chambre du crime, puis la mienne, toujours suivi du camelot, obséquieux et bavard, qui sans cesse répétait « Monsieur le commissaire, voilà comment ça s'est passé !» Le commissaire de police était un petit homme, gros et court, et qui soufflait comme un bœuf. Malgré la gravité de l'affaire, il avait un air de pochard, gai et bon enfant, que le souci de sa responsabilité ne parvenait pas à rendre sévère. Il ne me fit pas peur. Au contraire, son agitation m'amusa extrêmement. Il entrait, tournait, virevoltait, sortait, revenait et ressortait avec un empressement si comique qu'il ressemblait à un fantoche de pantomime. Et le camelot, fantoche aussi, mais sinistre, ne le quittait pas d'une semelle. Sur le palier, les gens de l'hôtel assistaient curieusement à ses allées et venues. Et moi, flanqué de deux agents indifférents et silencieux, je faisais comme les gens de l'hôtel, sans songer un instant que je fusse un des principaux acteurs de ce drame. Lorsque le commissaire se fut enfin rendu compte et du meurtre de la vieille et de la disposition des lieux, il ordonna aux curieux de se retirer chacun chez soi. Puis, s'adressant au camelot, qui lui soufflait dans le dos je ne sais quelle dénonciation, « Et qu'est-ce que vous foutez ici, vous? Allez-vous-en !» Mais le camelot résistait. « Puisque je l'ai vu, monsieur le commissaire, ma présence ici est indispensable, je suis le seul témoin. »« Comment vous appelez-vous ? » « Isidore Borgne, monsieur le commissaire. »« Et qu'est-ce que vous faites ici ?»«
Je suis camelot. »«
Ah ! Qu'est-ce que vous faites, nom de Dieu ?»«
Je vends des plans de Paris. »«
C'est bien, foutez-moi la paix maintenant. »«
Mais, monsieur le commissaire !»
Le brave commissaire se fâcha devant cette insistance et, appelant un agent, « Empoignez-moi ce lascar-là » ordonna-t-il, « et suivez-le. » Le camelot protesta pour la forme. « Je suis un bon citoyen, moi, ça ne se passera pas comme ça. » Et il se remit docilement, mais un peu effaré, aux mains de l'agent. Lorsque le palier fut déblayé, le commissaire referma la porte de la chambre qu'éclairaient deux bougeoirs et une lampe à pétrole. J'étais toujours flanqué de mes deux agents, et le cadavre gisait à mes pieds, sur le plancher, où la mare de sang s'élargissait. Le magistrat prit une chaise, s'assit en face de moi, s'épongea le front, souffla. Et, après m'avoir considéré avec attention durant quelques secondes, il dit « Voyons ça. À nous deux, maintenant. » Je n'étais pas ému, et même à cette minute tragique, j'avais l'esprit très libre. Je dois avouer aussi que le cadavre ne me terrifiait plus. Il ne me donnait pas d'autre idée que celle d'un vieux meuble brisé, d'un vieux tapis déchiré. Toute ma curiosité allait vers le commissaire, vers sa face ronde et coupe rosée, où l'alcool avait déposé des couches de bistre, vers sa chaîne de montre qui pendait sur son gros ventre, et vers son pantalon, qui, tendu sur ses larges cuisses courtes, faisait aux jarrets ployés des rides crapuleuses. Pas une seconde, je ne songeais qu'il y eût, sous ce visage vulgaire, en ce grotesque exemplaire d'humanité déformée, plus qu'une force sociale, mais la société tout entière, ses droits implacables de juger et de punir. J'examinai le brave commissaire, et je ne le voyais plus dans la chambre où il était assis devant moi, c'est-à-dire dans sa fonction sociale. Je le voyais dans sa fonction humaine, c'est-à-dire au petit café où il devait tous les jours enluminer sa trogne et vernir ses joues, et perdre de plus en plus, dans la joie de boire, dans le rêve charmant d'être saoul, la cruauté de son métier. Et je l'aimais véritablement d'être un ivrogne, car les ivrognes sont de braves gens. Tout à coup, le commissaire me demanda « Allons, voyons, dites-moi pourquoi vous avez tué cette vieille femme ?» Je n'avais pas bien compris cette question qu'il m'avait posée d'une voix soufflante et brouillée. Je dis machinalement « Je voulais en avoir le cœur net. » Le commissaire s'ébroua comme un cheval. « Comment le cœur net ? » fit-il. « Vous vouliez la violer ? » ?»«
Oh, monsieur le commissaire !»«
Enfin, expliquez-vous ! Quoi ? Qu'est-ce que vous entendez par votre cœur net ?» Et sans me donner le temps de répondre, brusquement, « Comment vous appelez-vous ? Et qu'est-ce que vous faites ici ?» Je le lui dis. « Quel âge avez-vous ? 20 ans. Et d'où venez-vous ? » Alors je racontai mon pays, ma mère, Monsieur Narcisse, mon petit chien Bijou, ma maladie, notre voyage à Paris et les vieux amis de ma famille, et la terreur que j'avais eue dès le premier jour dans l'escalier de la maison meublée. Lorsque j'eus terminé mon récit, « C'est bien curieux, » fit-il. « Une jeune femme, mon Dieu, que vous l'ayez tuée, je ne l'excuserai pas, mais je le comprendrai. Dans la passion, on ne se connaît plus. Mais une vieille comme celle-ci, vous êtes donc fou ?»« Mais je ne l'ai pas tuée, monsieur le commissaire, » criai-je de toutes mes forces. « Ce n'est pas moi qui l'ai tuée. » « Alors, qu'est-ce que vous me chantez depuis une demi-heure ? Qui est-ce qui l'a tuée ? Je ne sais pas. » Le commissaire se leva, me prit par les épaules, me regarda fixement. « C'est le camelot, hein ? Allons, dites-le. »« Mais non, je ne sais pas, je n'ai rien vu. Et c'est pour cela, monsieur le commissaire, que je voulais en avoir le cœur net. » Le commissaire réfléchit, puis prenant une résolution brusque, « Tout cela n'est pas clair, » dit-il. « Je vais vous mener au dépôt. Je vais mener aussi le camelot au dépôt. Vous vous débrouillerez devant le juge d'instruction. » Et il ordonna aux agents, « Au dépôt, tout le monde, par le flanc droit, arche !» Je fus donc conduit au dépôt. Durant la route, le camelot ne cessa de protester. « Je suis un citoyen français, je me plaindrai à Rochefort. » Il y avait eu dans la journée une rafle de malfaiteurs et de filles publiques. Toutes les salles de cette abominable prison étaient encombrées de figures assez sinistres, il est vrai, mais dont j'eus plus de pitié que d'horreur. Je n'essaierai pas de dépeindre la saleté et la malodoreur de ces salles. Cela dépasse toute imagination, et je ne crois pas qu'il y ait des mots assez forts pour en donner l'idée. L'impression sur ma personne physique fut telle que je faillis m'évanouir. Il me sembla que je venais de recevoir, d'un coup, le choc de toutes les maladies mortelles. De fait, l'air chargé de miasmes trop lourds était irrespirable. Il s'agglutinait à mes bronches comme de la matière solide, âpre et gluante. Quant à l'impression morale que j'en ressentis, ce fut pire encore. Longtemps, je fus accablé comme sous le poids d'une chose trop pesante et douloureuse. Ce qui, dans ce grouillement humain, apparaît plus que le vice et le crime, c'est la pauvreté, la détresse infinie où la société peut précipiter des êtres vivants, et qui ont, si déformés qu'ils soient, un cerveau et un cœur, de la pensée et de l'amour. Ces deux choses mystérieuses et qui font la créature humaine, il n'est pas un regard où je ne les ai reconnus, même aux yeux des plus brutes et des plus déchus. Et ces êtres, qui malgré tout conservent dans les ténèbres de leur raison et de leur conscience un reflet trouble de cette lueur d'humanité, on les traite comme on n'oserait pas traiter des rats ou des cloportes. Ici, dans la promiscuité hideuse de ces salles, tous les âges sont confondus. À côté des vieux routiers de la débauche et du crime, se voient de pauvres enfants de 12 ans, à qui il serait facile pourtant d'éviter de pareils contacts, et qui, bien souvent, gardent, d'une seule journée ou d'une seule nuit passée dans cet enfer, une flétrissure éternelle. Ils sont entrés, ignorants et aussi purs qu'il est possible à de petits abandonnés de l'être, et ils en sortent, souillés dans leur corps, quelquefois, dans leur âme, toujours. Parmi toutes ces créatures de hasard, parquées plus barbarement que des bêtes dans cette geôle immonde du dépôt, je ne doutais point qu'il s'en trouvât beaucoup d'innocents comme je l'étais moi-même, et d'autres, plus douloureux encore, dont le seul crime était que devant tant de maisons, tant de magasins gorgés, tant de richesses gaspillées, ils n'eussent ni un abri, ni un vêtement, ni un morceau de pain. J'examinais toutes les figures autour de moi. Oui, vraiment, c'était des figures de crime, parce que c'étaient des figures de faim. Combien y avait-il de ces souffrances? Des souffrances pires, sans doute, parmi tous les guenilleux dont les salles du dépôt étaient pleines. Cette nuit-là, dans cette abjecte prison où il y avait de tout, assassins, vagabonds, voleurs, ivrognes, j'eus la révélation soudaine que la société cultive le crime avec une inlassable persévérance et qu'elle le cultive par la misère. On dirait que, sans le crime, la société ne pourrait pas fonctionner. Elle veut des misérables, parce qu'il lui faut des criminels pour étayer sa domination. Et j'ai compris que celui-là qui, une fois poussé au crime par la nécessité de vivre, est tombé dans le crime, ne peut plus se relever du crime. Toute la nuit, je demeurai silencieux, dans un coin de cette salle, qu'éclairait funèbrement un bec de gaz dont la flamme vacillait sous l'orage des voix. Des gens me frôlèrent, des gens me bousculèrent. D'impudiques vieillards, avec des yeux de fou, me soufflèrent dans l'oreille des mots abominables. Je ne disais rien, je regardais, et mon âme, de plus en plus, descendait en des tristesses profondes. Et le camelot allait et venait, important, bavard, tutoyant tout le monde. Il avait retrouvé là de vieilles connaissances, de vieux amis de crime. Ce n'est qu'au matin que, malgré les interrogatoires du commissaire de police, j'eus enfin la certitude qu'il avait assassiné la vieille aux tapisseries. « Oui, oui, je comprends maintenant. C'est lui, c'est lui. » Et je me dis encore, « Après tout, il a peut-être bien fait de la tuer. Je ne le dénoncerai pas. Qu'ils s'arrangent tous les deux, la justice et lui. » Je n'avais pas bougé de mon coin, pris tout entier par l'imprévu de l'aventure et du spectacle si nouveau qui s'offrait à moi. Je puis dire que c'était la première fois que je voyais de la misère totale, et comme il n'en existe réellement qu'à Paris. En province, dans les petits bourgs et dans la campagne, la misère n'est que relative, parce que, riche ou pauvre, tout le monde s'y connaît. Et puis, les champs, les forêts, les vieilles masures abandonnées, les huttes de cantonniers, les troncs des arbres morts, ont tout de même de l'hospitalité. Les vagabonds trouvent des cavernes pour s'y tapir, des fruits aux arbres, et dans les maisons, presque toujours un morceau de pain. À Paris, ils ne trouvent rien. Les individus ont trop d'affaires pour songer à être bons. L'État fait de la charité une sorte de citadelle inaccessible. Pour y parvenir, il faut passer par des filières administratives, être électeur, payer des contributions, posséder des certificats de bonne vie et mœurs pour avoir droit à un secours. À Paris, on ne peut se payer le luxe d'être pauvre qu'à la condition d'être riche. Le dépôt, c'était véritablement pour moi la fissure de lumière par où je plongeais jusqu'au fond du gouffre de misère. Près de moi, il y avait un homme qui n'avait pas bougé non plus de toute la nuit. Il se tenait assis sur le plancher, le dos appuyé au mur, la tête dans ses mains, et il paraissait dormir. Je ne fis pas d'abord attention, étant trop occupé de moi-même, et du camelot, et des figures sinistres qui allaient et venaient, ainsi que des bêtes fauves dans des cages. Ce ne fut que vers le matin, lorsque le gaz s'éteignit, qu'il remua un peu ses jambes, raidi par l'immobilité, et qu'il recula contre la muraille, ses épaules meurtries et ankylosées. Je vis alors son visage. Si tant est qu'on puisse dire de cette face humaine que ce fut un visage. Des yeux là et comme voilés, une peau fripée et jaune, une courte barbe, terne et rare, qui ressemblait plutôt à une maladie d'arthreuse qu'à une barbe. Lui aussi me regarda fixement, sans que j'eusse la sensation qu'il me vit. Malgré son manque d'expression, ce regard exprimait une grande douceur. Cela venait sans doute de ce que le regard étrange de cet homme n'exprimait rien, et je remarquai sur ses deux prunelles quelque chose de pareil à deux petites taies qui en brisaient l'éclat intérieur. « Je ne te vois pas bien, me dit-il, mais tu as l'air tout jeune et tu n'as pas de barbe. Pourquoi es-tu ici ?» Bien que je fusse heureux qu'on m'adressât la parole, je répondis de façon à rompre tout entretien. « Je ne sais pas. » L'homme hocha la tête et son dos oscilla contre le mur. « Tu ne sais pas, fit-il, tu ne veux pas parler. Alors, pourquoi es-tu ici ?»« Je suis ici parce que dans la maison que j'habite, une vieille femme a été assassinée. » Tous les jours, on assassine des vieilles femmes. Ça n'est pas une raison. » Après un silence de quelques secondes, il ajouta « Tu habites une maison. Tu as de la chance, toi. Approche un peu, que je te vois mieux. Ton visage est tout brouillé. Quel âge as-tu ? »
20 ans.
Et toi ? » Oh, moi, je n'ai plus d'âge. Depuis 3 années, les minutes me semblent si éternelles que je crois bien que j'ai vécu au moins 40 ans. Et je n'ai pas de maison non plus. Je n'ai rien.
Que fais-tu ?
Je suis employée dans une maison de banque.
Tu as de la chance !
Voilà seulement 8 jours que je suis à Paris. Et toi, qu'est-ce que tu fais ?
Moi, je dors sur les bancs des jardins publics. Autrefois, je chantais et je disais des vers dans des cabarets de Montmartre. Mais les vers étaient trop tristes et j'étais trop mal vêtue. On exigeait que j'eusse une redingote tombant sur mes talons, un pantalon à la housarde, une cravate à triple torsion et des cheveux je ne sais comment. Au bout de quelques soirs, on n'a plus voulu de moi et l'on m'a mis à la porte. Comprends-tu ?
Des vers de toi ? Alors tu es poète ?
Regarde ma peau fripée et le creux de mon ventre. Et mes guenilles. Est-ce que je n'ai pas l'air d'être poète ? Je suis presque aveugle. Une nuit que j'avais dormi au bord de la Seine, derrière un tas de pierres, je me suis réveillée avec des yeux qui ne voyaient presque plus. C'est peut-être la 20e fois qu'on m'amène ici, car je suis si indiciblement pauvre que je n'ai même plus le droit de dormir quelque part. Quand je suis trop fatiguée et que je m'étends sur un banc ou sous l'arche d'un pont, on me ramasse. Il paraît que j'ai volé quelque chose à la société. »
Il eut un sourire d'une tristesse charmante, et il reprit « Aujourd'hui, je passerai devant des juges, et ils me diront « Ah, c'est encore vous, nous n'en pouvons plus de vous condamner. » Et ils me renverront. Les prisons ne veulent plus de moi. Elles refusent de me nourrir. Je ne leur fais pas d'honneur, n'ayant jamais commis de crime. « Qui est-ce qui a tué la vieille femme pour le meurtre de qui tu es ici ?»«
Je ne sais pas. Veux-tu que je te raconte ?»«
Je n'y tiens pas. Il y a tant de vieilles femmes qu'on tue chaque jour dans Paris. Je te demande cela pour dire quelque chose, et aussi parce que je voudrais que ce fût moi qui l'ai tué. »«
Toi ? Pourquoi, toi ?»«
Parce que j'aurais une maison, une gamelle, et sur le corps un peu de laine chaude. » Je rêve du bagne comme d'un palais. On doit y être bien. Mais je suis trop lâche. La vue d'un couteau me fait trembler. Oui, les assassins et les voleurs sont des hommes heureux. Ils peuvent vivre. Moi, qui ne puis me résoudre à tuer et à voler, je vais comme ces chiens perdus, fouillant ici, vautrer là. »
Il fit de sa casquette une sorte de tampon qu'il inséra entre le mur et son dos.
« Dis donc !» Comme je n'avais pas répondu. « Dis donc » répéta-t-il. « M'écoutes-tu ? » ?
« Oui, je t'écoute, mais j'ai trop de peine à entendre tes paroles. »
« Quand nous serons libres, tous les deux, toi et moi, tu me feras une petite place dans ta maison. »
« Je veux bien. »
À ce moment, il se fit dans la salle un grand tumulte. Des gendarmes venaient d'entrer.
« Ah, zut ! » fit l'homme. « On vient peut-être me chercher. J'aurais voulu dormir encore. »
Ce n'était ni moi ni mon compagnon que les gendarmes étaient venus prendre.
mon compagnon se rendormit, et moi je continuai de regarder l'affreux drame du dépôt. C'est de cette journée que datent la pitié et la révolte qui furent les bases de ma vie morale. Ma faiblesse physique, ma timidité intellectuelle n'ont jamais permis à ces deux sentiments de s'affirmer dans une forme active, et j'en ai cruellement souffert. Mais voyez combien le cœur de l'homme est rempli d'énigmes et de contradictions douloureuses. La créature humaine, envers qui j'eusse dû montrer le plus de pitié, ma femme, est peut-être la seule envers qui je me montrais inexorable. Pas une minute mon dégoût n'affaiblit devant sa laideur et devant le ridicule de son âme, qui sont pourtant des choses émouvantes et bien faites pour remplir d'adoration et de dévouement les grands cœurs. Ah, je ne regrette pas cette journée passée au dépôt. Elle m'a permis de voir de la misère que l'on ne peut même pas soupçonner au dehors. J'ai vu de pauvres petits enfants de 6, 8 et 10 ans enfermés dans des couloirs étroits, avec des galvaudeux plus âgés et vicieux. J'ai vu des misères sordides, des êtres en loques, d'ambulants cadavres, de frissonnants spectres, sortis de quels enfers. Ah, on se le demande. Quand une société enferme dans une telle promiscuité de débauche des enfants de 6 ans avec des adolescents déjà corrompus, a-t-elle le droit de se plaindre si elle ne récolte plus tard que des mendiants, des sodomistes et des assassins? À Paris, les philosophes de l'optimisme meurtrier ne voient pas la misère. « Nous avons décrété l'abondance générale, » disent-ils. « Le bonheur fait partie de notre constitution. Il est inscrit sur nos monuments et fleurit gaiement à nos fenêtres, enseigne nationale. Il n'est de pauvre que ceux qui, malgré nous, s'obstinent à l'être. Par conséquent, qu'ils nous laissent tranquilles. » Et comment verraient-ils la misère? Savent-ils seulement qu'il existe, entassés dans des demeures malsaines, des milliers d'êtres humains pour qui chaque aspiration d'air équivaut à une gorgée de poison et qui meurent de ce dont vivent les autres? Le triste poète, à ma gauche, dormait maintenant profondément. À ma droite, un homme, maigre, au teint plombé, vêtu d'un bourgeron de travail, toussait avec de pénibles efforts. Je lui demandai pourquoi il était ici et quel était son crime. « C'était la paye, hier, » répondit-il d'une voix sifflante. « Je me suis saoulé comme de juste, et je crois bien que j'ai eu des mots avec un agent qui me bousculait. Il me semble que je l'ai appelé « vache ». D'abord, j'étais saoul et je chantais. Ensuite, pourquoi m'a-t-il rudoyé? Je ne lui disais rien. Est-ce qu'il est défendu aux pauvres de chanter maintenant? Ce qui m'embête, c'est la femme et les gosses qui ne savent pas ce que je suis devenu et qui doivent me croire mort. Sans ça, mon Dieu, dormir là ou ailleurs. Vous avez l'air malade, lui dis-je, et vous toussez. Si je suis malade, comment voulez-vous que je ne sois pas malade? Il faudrait que vous voyiez notre logement. L'atmosphère est tellement viciée où nous vivons que chaque matin, quand je me réveille, ayant d'ailleurs mal dormi, j'ai toujours la sensation d'une petite asphyxie. Ce n'est que dans la rue, en allant à mon travail, et après avoir pris 2 ou 3 verres, que mes poumons parviennent à se décrasser des poisons absorbés pendant la nuit. Et comment voulez-vous aussi que les enfants ne soient pas malades? Et la femme, je me demande où elle trouve la force de résister à ce continuel empoisonnement. Moi, ça va encore, parce que je me saoule de temps en temps, et que de me saouler, ça me nettoie la carcasse. Mais la femme, mais les gosses, ils n'ont pas toujours de quoi manger à leur faim. Ça, c'est vrai, que si je buvais moins, ils pourraient peut-être manger plus. Mais si je ne buvais pas, il y a longtemps que je serais mort. Alors, quoi faire? Est-ce qu'il n'y a personne qui s'occupe de vous ?
Il y en a quelques-unes. On ne veut pas les entendre. On n'entend jamais que ceux qui font les lois. Et toutes les lois sont contre nous. C'est bien simple. Il faut, à l'homme, pour vivre, 100 mètres cubes d'air pur, par 24 heures. Au-dessous de quoi, c'est l'asphyxie. Or, nos logements n'ont en moyenne qu'une capacité de 30 mètres. Et dans ces 30 mètres sont entassés la famille, le chien, le chat, les oiseaux, sans compter les fleurs, qui exhalent de l'acide carbonique durant toute une nuit de 8 heures. Ajoutez que le plus souvent, ces 30 mètres ne forment qu'une seule pièce, tout à la fois cuisine et chambre à coucher, que la cheminée ou le fourneau rebelle, la lampe qui fume, prennent l'oxygène utile et rejettent les gaz dangereux. Ajoutez aussi qu'à chaque entrebâillement de la porte entre de l'air qui a passé de chambre en chambre, dans toute la maison, qui est allé sentir les alvéoles pulmonaires d'un tuberculeux d'en haut, d'un catarrheux d'en bas, qui a passé sur de la diphtérie, de la fièvre typhoïde, de la scarlatine. Conclusion. Maladie et misère, et finalement mort. J'aime mieux me saouler. Il fut pris d'une quinte de toux qui lui déchira la poitrine. Après quoi, « Et vous ?» me dit-il. « Vous êtes un enfant de bourgeois, et vous ne semblez guère plus heureux que moi. » Je répondis gravement, « Oh, moi, depuis que j'ai vu tant de misère, je sens que je ne serai jamais plus heureux. » Et un immense désespoir entra en moi. Ce n'est seulement que dans l'après-midi que je fus amené chez le juge d'instruction. Le camelot m'y avait précédé. Je le vis dans les couloirs du palais de justice, qui marchait, la tête basse et la mine navrée, entre deux gendarmes. Peut-être avait-il avoué son crime. Peut-être le seul aspect de ces inexorables couloirs lui avait-il mis aux épaules et dans le cœur cet accablement. Oh, le froid glacial et morne de ces couloirs! Et ces visages de justice, plus froids encore et plus terribles que ces murs. Et ces visages de douleur, sur lesquels la loi a mis des griffes de torture. Et comme les pas résonnaient cruellement entre ces murs nus, où l'espérance ne peut accrocher ses dernières loques. Et comme les robes des juges et des avocats soufflent dans leur vol sinistre un vent qui fait frissonner. En croisant le camelot, j'eus réellement pitié de lui. Bien sûr, il avait tué la vieille femme aux tapisseries. Je ne pouvais plus douter de son crime. Mais qu'était cette vieille femme? À quoi était-elle utile dans la vie? Je l'avais rencontrée deux fois dans l'escalier de l'hôtel. Elle m'avait paru revêche et grognonne, et tout de suite j'avais détesté ses lèvres sèches et ses deux petits yeux cruels. Le camelot, lui, en dépit de certaines tares de misère, avait un air de bonhomie gouailleuse, de cynisme bon enfant, qui m'était plutôt sympathique. Bien des fois, en sortant de sa chambre, il chantait de sautillants refrains, indice, après tout, d'une conscience calme et sans haine. En tuant la vieille, il avait peut-être des raisons si profondes qu'il ne les soupçonnait même pas. J'ai souvent pensé, durant ces heures troublées, que l'assassinat pouvait bien être une loi mystérieuse de la nature. La nature, dont nous ne connaîtrons jamais les desseins, arme certains bras pour des équilibres vitaux indispensables. Il y a des assassinats que je ne m'explique que comme un rétablissement d'harmonie. Aux vivants, forts et joyeux, il faut de l'espace, comme il en faut aux arbres sains, qui ne croissent bien qu'à condition de dévorer toutes les inutiles essences qui leur volent, sans profit pour la vie générale, leurs moyens de développement. Et j'ai souvent protesté. « mais non, disais-je. L'homme a une faculté de déplacement et la terre est grande. S'il n'est pas bien ici, il peut aller ailleurs. Le végétal, lui, est rivé au sol, où le retiennent
enchaîné et captif, c'est Racine. Et puis, que sait-on? Et ne vaudrait-il pas mieux abattre les gros arbres pour laisser aux petits qui meurent à leur ombre plus d'air, plus de lumière? Ce que je savais, par exemple, au moment où je rencontrais, entre les gendarmes, le malheureux camelot accablé, c'est que son crime ne m'effrayait plus. Mieux, je le considérais comme une victime inconsciente de la nature. Et si j'avais pu le sauver du châtiment, je l'eusse fait avec une grande joie. C'est que je sentais naître en moi un sentiment encore confus, qui par la suite fut la philosophie de mon existence, et que je puis traduire ainsi. Il faut être toujours pour ce qui vit, contre ce qui est mort. Quant à moi, fort de mon innocence, ignorant encore ce que l'appareil judiciaire recouvre de ruses, de parti pris et de mensonges, je n'avais aucune peur. Je m'étais habitué à l'hostilité de ces murs, de ces couloirs, de ces visages, et ce fut d'une chair tranquille et d'un cœur indifférent que j'entrai chez le juge d'instruction. C'était un petit homme, gras et rose, un peu chauve, sans lunettes, sans barbe, et dont la main gauche, vulgaire, boulue et courte, était ornée de bagues barbares. Un être quelconque, un passant, rien. Oui, cet homme qui jugeait les hommes, qui disposait à sa volonté de leur fortune, de leur honneur et de leur vie, me parut être cette apparence vague, cette ombre anonyme, ce furtif reflet d'humanité qu'on appelle un passant. Ni sur lui, ni en lui, il ne portait aucun signe physique ou moral de sa puissance formidable. Il était juge, comme il aurait pu être médecin, épicier, notaire ou restaurateur. En vain, je cherchais en lui quelque chose par où il dépassa le niveau du contribuable et de l'électeur. Je n'y trouvais que les tares ineffaçables de la médiocrité. Il ne me troubla pas. Dès que j'eus été introduit, les gendarmes se retirèrent. Le juge écrivait. Il écrivait peut-être un arrêt de mort, et ses gros doigts n'avaient pas un frémissement. Tout d'abord, il ne leva pas les yeux sur moi. Il était tassé dans un fauteuil à dossier bas, et ce que je voyais le mieux de lui, c'était son crâne rose, sous les poils rares, et les bagues de sa main. En face de lui, devant une table séparée de la sienne par une espèce de cartonnier sur le haut duquel étaient posés, sans ordre, des dossiers, un autre personnage quelconque, un second passant, la tête couverte de cheveux ébouriffés, se curait les oreilles avec un porte-plume. C'était le greffier. Si le juge était gras et rose, le greffier était maigre et blafard. Il avait de longues jambes croisées sous la table, de longues jambes osseuses, que terminaient des pieds énormes chaussés de bottines dont les élastiques trop lâches bâillaient. Il me regarda, mais d'un regard si morne que je n'eus pas conscience d'avoir été regardé par quelqu'un de vivant. Quand il eut fini de curer ses oreilles, il déposa sa plume dans un plumier et se mit à ranger quelques papiers avec des mouvements brusques. Et tandis que j'attendais, je songeais. Est-il donc possible que ces deux êtres qui sont là, devant moi, aient une maison, une famille, des amis, des passions? Est-ce qu'ils vont au théâtre, à la campagne? De quelle manière grossière sont-ils fabriqués? Au moyen de quel mécanisme remuent-ils les bras, les jambes, la tête? J'aurais voulu les toucher, faire jouer leurs articulations, écouter le tic-tac de leur poitrine. Et la pièce était tapissée d'un papier ignoblement vert. Et par l'unique fenêtre aux rideaux jaunissants, j'apercevais, sous un ciel gris, des toits, des cheminées, toute une population difforme de tuyaux, de girouettes, dont les girations me représentaient quelque chose de véritablement plus humain que ces deux hommes, mornes et glacés. Enfin,
le juge ayant cessé d'écrire, appuya d'un doigt gras sur un bouton électrique. Un huissier apparut, puis s'en alla chargé de papier. Et puis, l'homme gras et rose voulut bien remarquer ma présence. Il me regarda d'un regard fixe et sans pensée, se renversa sur le dossier de son fauteuil, inclina sa tête sur sa main chargée de bagues, et d'une voix fluette, acide, il dit « Qu'est-ce que vous faites ici, vous ?» Et se reprenant, il ajouta « Ah, parfaitement, c'est vous. » L'interrogatoire que j'eus à subir fut sans intérêt dramatique, et je ne le raconterai pas dans sa forme, pour ne point accumuler trop de détails inutiles et monotones dans ce récit. Tout en marquant son complet mépris de ma chétive personne et de l'humilité de ma condition, je dois dire que le juge, gras et rose, ne s'acharna pas trop contre moi, du moins contre ma culpabilité. Après un quart d'heure de questions humiliantes et de petites tortures criminalistes, il finit par me mettre hors de cause dans cette affaire. Je compris que je n'étais pas pour cet homme un criminel assez retentissant et confortable. Je ne lui faisais pas honneur, je ne flattais pas sa vanité de tortionnaire. D'ailleurs, il avait trouvé dans le camelot, non pas l'idéal du criminel par qui vous viennent la notoriété et l'avancement, mais quelqu'un de plus malheureux que moi, un être déjà décrié par sa vie antérieure. Et c'était, pour un défenseur de l'ordre et de la société tel que ce juge, une proie meilleure, et par quoi son dilettantisme pouvait se réjouir. Et tel fut le peu d'estime qu'il avait de moi, qu'il ne jugea même pas utile ou glorieux de me confronter avec la victime, ni avec l'assassin. Le seul point sur lequel il s'obstina, ce fut, par des détours perfides et aussi par des menaces, de m'arracher une dénonciation précise contre le meurtrier. Vaines furent ses tentatives. Par un sentiment de pitié peut-être, et peut-être par un simple désir de contradiction, j'osais faire l'éloge du camelot, de sa pauvreté, de sa gaieté, de sa complaisance, de ses qualités professionnelles que je jugeais admirables. Je ne sais si le juge comprit l'ironie, mais il interrompit mon éloquence par un « Assez !» colère et plein de haine. Et me félicitant d'en être quitte à si bon marché, il me renvoya. Le soir, j'étais libre. Je ne voulus pas rentrer à l'hôtel de la rue Princesse, et j'allais dîner chez des vieux amis de ma famille, auxquels je racontais, non sans un certain orgueil, l'incident. Et vraiment, à la pensée que j'aurais pu être un assassin, et peut-être monter sur l'échafaud, les vieux amis sentirent naître en eux, au fond d'eux, une véritable admiration pour moi. Durant toute cette soirée, je connus ce que c'est que la gloire. Ma future femme ne me quitta pas des yeux. Avec une avidité surprenante, et comme si je lui fusse révélée pour la première fois, elle regardait mon visage, mes mains, mon pantalon, où des taches de sang étaient encore visibles. Et elle disait « Ainsi, vous l'avez vue morte, la gorge ouverte ? Mais oui, dans son sang, sur le plancher ? Mais oui, et vous l'avez prise avec vos mains, portée dans vos bras ? Oui, oui, oui !» Et les vieux amis ne cessaient de répéter en me considérant avec envie « C'est quelque chose, ça, Mazette !» Le père dit, en faisant une grimace, dont je ne sus pas démêler l'expression. « Vous serez demain dans les journaux, peut-être ? Si jeune ! Moi, j'ai 44 ans, et jamais je n'ai été dans les journaux !» Et la mère, d'une voix étrange, où il y avait du regret, des protestations contre le sort, une rancune sourde contre l'effacement, l'anonymat de son mari, dit aussi « Et tu n'as jamais été du jury !» Il me semble que toutes ces choses sont d'hier, bien que des années aient passé sur ces vieux souvenirs. Je les ai toujours présents à l'esprit. Ils restent aussi précis que si les visages et les images qui les fixèrent étaient encore devant moi. Et cependant, j'ai 58 ans, c'est-à-dire des siècles, 58 siècles, par la façon dont j'ai vécu. Car je n'ai vécu que par la pensée, ne donnant aux événements extérieurs et aux hommes qui les accomplissent ou qui les font naître qu'une part minime de mes réflexions. À quelle fin et comment, au milieu de tant de poussière, tout cela que j'ai raconté s'est-il conservé en moi? Et pourquoi trouvais-je dans le récit de ces petits faits que j'aurais dû oublier une sorte de joie amère et puissante? C'est peut-être comme un désir de vie qui remonte en moi, du fond de l'exil de moi-même. C'est peut-être le regret d'avoir tout sacrifié à des rêves intérieurs et de n'avoir pas compris que seule la vie, même avec ses abjections et ses tares, est douée de beauté, puisque c'est dans la vie seule que résident le mouvement et la passion. Aujourd'hui, il m'est arrivé une chose curieuse. En revenant de mon bureau, sans doute sous l'influence latente de ces idées, j'ai longuement flâné par les boulevards et par les rues. Je me suis arrêtée aux boutiques et j'ai vu un tas d'objets qui servent aux besoins et aux plaisirs des hommes et auxquels je ne comprends rien, tant je suis restée confinée aux formes anciennes et tant j'ai défendu ma porte à ce personnage étrange qui s'appelle le progrès. Et je me suis promis dorénavant d'étudier ces étalages où s'étalent, dans une sorte de gloire merveilleuse, toutes les formes de la sensualité. À la vitrine d'un magasin, je me suis aussi attardée devant des photographies. Il y en avait beaucoup de femmes qui montraient leurs seins, les dents de leurs bouches impures et leurs jambes. Il y en avait d'hommes également, qui sont, paraît-il, des écrivains célèbres et des artistes renommés. Physionomie vulgaire en général, et souvent comique par la pose étudiée, l'arrangement des cravates et des yeux, la mise en valeur de certains avantages physiques. Parmi toutes ces photographies, entre une danseuse aux gestes érotiques et un poète illustre, déjà maquillé d'immortalité éphémère, tout à coup, j'ai vu la photographie de mon juge. C'est bien lui, car son nom est écrit au bas du portrait, sur une bande de papier. Bien qu'il soit très vieux aujourd'hui, c'est à peine si sa physionomie a changé. Il est un peu plus chauve, un peu plus tassé, ses joues se sont amollies et tombent, et les poches de ses yeux se sont davantage boursouflées. Mais le regard est exactement le même, ce regard de passant obscur, où, jadis, j'avais vainement cherché un reflet d'humanité, un enthousiasme, une passion, ou du crime. Je vois qu'il est monté en grade et qu'il occupe une des plus hautes fonctions de la magistrature. Sur combien de têtes d'innocents a-t-il marché? Par quel dédale d'obscurs couloirs a-t-il passé? Devant quelle puissance a-t-il courbé son échine si souple en face des grands, si raide en face des petits? Avant d'avoir atteint ce sommet où plane maintenant sa robe rouge. Il m'est impossible de deviner son histoire dans son regard qui n'exprime rien. Elle fut sans doute infime et banale, comme celle de tous les hommes en place, car il s'agit pour tout le monde de conquérir, au prix des plus viles actions, des places toujours meilleures. Pourquoi accabler ce juge d'un crime que tous commettent et que moi-même, dans une petite sphère, j'ai commis comme les autres et dont je n'ai jamais eu de remords ?